Décodeur passe l'été avec Marie-Claire Maison. Et pour s'évader, rien de tel que de feuilleter le magazine qui nous emmène, comme toujours, faire de magnifiques visites. Cet été, on va au bord de la mer, évidemment. Dans les Cyclades d'abord, dans une maison familiale ultra moderne, puis dans une résidence d'été au milieu des plants de vigne. Quelques pages plus loin, on se retrouve en Nouvelle-Zélande, dans un cottage de verre. Puis en plein cœur des Sawira, dans un riad aux mille et une couleurs. Et attention les yeux, dans un cube de béton brut qui surplombe l'Atlantique. Bref, cet été, inspirez-vous avec le dernier numéro de Marie-Claire Maison. Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour changer de mes introductions précédentes, je vais vous raconter une histoire. En 1860, Antoine Roset, l'arrière-grand-père de Michel Roset, que je reçois aujourd'hui, habitait en Haute-Savoie, entouré de forêts de hêtres. Il a l'idée de créer une entreprise de cannes pour ombrelles. Vous savez, ces ombrelles que les femmes du début de siècle ouvraient aux premiers rayons de soleil. Mais cette mode disparut au fil des années, alors pour rebondir, il décida d'utiliser ses tours à bois pour fabriquer des pieds et des barreaux de chaises, voire des chaises entières. Son fils Émile lui succède, puis son petit-fils, Jean. Nous sommes au moment de l'après-guerre et la petite entreprise prend vite une tournure industrielle qui meuble les collectivités, des universités aux hospices. Dans les années 70, la marque Ligne Roset est officiellement créée et se tourne vers les particuliers. Le célébrissime canapé Togo naît, la suite de l'histoire avec Michel Roset, directeur général du groupe Roset. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors vous, à quel moment êtes-vous arrivé dans cette aventure familiale? Jean, c'était votre père donc.
Oui, Jean, mon père, qui a fait l'essentiel, je me permets de saluer là sa mémoire, puisqu'en fait c'était un homme, un entrepreneur, très moderne dans la mesure où très rapidement il a tourné l'affaire vers l'exportation, avant tout le monde. Et je dirais, il a su s'entourer également de gens pour exporter, il a su s'entourer de créer une marque, je dirais, pour échapper un peu aux fourches caudines de la distribution. Donc il a créé sa marque avec des gens célèbres, puisqu'on a eu Rousseguela Kezak comme agence à l'époque. Et cette marque a pu exporter et on a même pu créer un réseau de distribution autour de cette marque. Ouais. Donc là, il était très novateur. Donc je rentre moi à cette période-là, c'est-à-dire que j'ai un frère aîné et qui était déjà dans l'entreprise. Et moi, je pense que mon père, ça c'est pour la petite histoire, avait un peu la crainte qu'on puisse s'accrocher, puisqu'on était très proches, on n'a que 15 mois d'écart. On crée la marque Sina, on me fait créer la marque Sina, on me dit, bon, on va voir ce que tu sais faire. Et donc, on crée la marque Sina dans les années 75.
Oui, alors pour bien poser les choses, dans le groupe Roset, il y a deux marques, il y a Ligne Roset et Sina. Pourquoi vous avez créé deux marques, en plus un peu au même moment? Quelle est leur différence ou leur particularité?
La stratégie, c'est simplement d'avoir deux réseaux de distribution à terme en France pour mieux capter. L'inconvénient de réseau exclusif, c'est qu'on a un certain nombre de points de vente et qu'on est limité par la distribution. Il y a une sorte d'asymptote qui se crée. Et donc, pour que cette asymptote soit un peu plus haute, on a créé la marque Sina, qui est devenue une marque dans l'Hexagone concurrente à la marque Roset, il faut bien le dire. Mais en revanche, comme on était déjà exportateur, les deux collections s'assemblaient dans les pays étrangers. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus qu'une seule marque à l'étranger, qui était la marque Ligne Roset. Et cette marque Ligne Roset cumulait les produits, les collections, d'une part de Sina et d'autre part de Ligne Roset.
Mais on va revenir après en détail, c'est quand même le même mode de fonctionnement, les mêmes usines, la même philosophie.
Voilà. Au début, on n'a pas commis l'erreur, mais on a cru qu'on pouvait avoir des produits, comment dire, plus démocratiques et surtout moins onéreux. C'était une erreur, puisqu'en fait, c'était quand même le même process industriel, c'était le même personnel, c'était le même équipement, les mêmes machines. Donc très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait que cette marque soit vraiment concurrente pour que, à l'exportation, la collection Sina puisse véritablement s'ajouter et soit un complément à la marque Line Rosée. Donc très rapidement, effectivement, ces deux marques travaillent avec souvent des designers séparés, mais je dirais c'est la même hauteur de vue, de conception et de marketing.
Vous, jeune, vous saviez que vous alliez reprendre, on vous l'a demandé ou on vous l'a imposé? Comment ça s'est passé?
Comment dire, d'un côté, mon père nous a initiés très tôt à la vie des affaires avec mon frère Pierre, hein, puisqu'il nous emmenait, je me souviens moi, à une époque où une société Airband, qui était un de nos gros concurrents, qui était un leader, qui a eu des problèmes, je me souviens d'un voyage le dimanche pour aller visiter cette usine, pour savoir si on devait la reprendre ou pas, etc. Donc, très souvent, on accompagnait notre père, pas simplement à la chasse, mais dans le cadre de ces visites, on faisait un peu comme de la prose, sans le savoir. Il nous a effectivement initiés très très rapidement aux affaires. Donc moi, je suis rentré 2 ans après. Effectivement, on a fait le deal de dire, bon ben, on veut créer une deuxième marque. La marque était déjà déposée, il y a la collection à faire, etc. Donc j'ai commencé tout de suite très très tôt, je dirais, également par la conception complémentaire, bien sûr aidée, mais d'une nouvelle collection et d'une nouvelle marque. Voilà à peu près pendant 10 ans mon départ, en fait. Après, bien sûr, j'ai, dans la mesure où tout ceci a bien fonctionné et s'est bien développé, je me suis occupé plus particulièrement, je dirais, de la communication, toujours aidé, et des collections Line Rosée Sina.
Oui, si on grossit le trait, j'ai l'impression de comprendre que Pierre, votre frère, c'est plutôt l'homme de l'ombre, entre guillemets, il fait tout le business, et vous, vous êtes plus la partie commerciale, même si c'est le business aussi, ouais. Évidemment, la communication, la création.
Avec le temps, effectivement, chacun a trouvé, son chemin, et la nécessité de l'organisation nous l'imposait, mais il faut être très très honnête, en fait, comme on était assez proches, toute question importante dans un domaine ou dans l'autre était souvent réglée par tous les deux, quoi, en fait. Mais c'est vrai que j'avais plus la spécialisation, je dirais, création, communication, distribution, et lui, il avait, ce qui n'est pas non plus une mince affaire, tout l'aspect social, administratif et financier, hein. C'était une affaire qui, dans ces années-là, on parle des années 80, 75-80, avait des taux de progression très très importants.
Alors aujourd'hui, l'entreprise fête ses 160 ans. Comment on reste dans le coup, entre guillemets, quand on a 160 ans?
Moi, je dirais que 160 ans, c'est surtout pour impressionner ou intéresser les Américains ou les Chinois. C'est bien parce que c'est aussi une histoire, c'est une belle histoire de famille. C'est vrai, ce qui est vraiment étonnant, c'est que on a 60 ans dans le cadre d'une famille très resserrée, hein. On a un cousin germain également qui travaille avec nous, qui est un ingénieur. Mais c'est vraiment la famille au sens strict du mot qui s'est succédé. C'est vrai que la belle partie, quoi, c'est mon père qui l'a initié dans les années donc 60. Et puis, avec mon frère Pierre, dès les années 70, 80, on a pris la direction de cette affaire.
Alors, vous proposez tout pour la maison. On ne va pas lister tout ce que vous faites, les canapés, les chevets, les bureaux, les secrétaires, les luminaires, le textile, la déco, etc. On pourrait se dire que vous avez tout fait depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui est moteur dans l'envie de créer de nouveaux produits?
Le vrai moteur pour un entrepreneur, surtout lorsqu'on a une marque et qu'on accole son nom, et donc on est toujours content de la coller quand c'est un succès, une réussite, c'est parfois plus périlleux quand ça ne l'est pas. Donc le moteur, c'est avant tout, je dirais, en ce qui me concerne, la passion de proposer des choses qui intéressent le plus grand nombre, même si on travaille en haut de gamme. On a les moyens d'intéresser, je dirais, si je reprends les années 70, on avait beaucoup de couples, double salaire, professeurs. D'ailleurs, nos communications étaient très orientées sur le Nouvel Obs, l'Express, à cette époque, Télérama, etc. Et donc, on était avec des progressistes, c'est ça qui est intéressant, des gens qui avaient envie de changer un tout petit peu, si ce n'est la société, de changer un peu la façon de vivre, d'habiter, de voir les choses différemment. Et ça a été vraiment la marque de fabrique des collections Livres et Sinins du départ. Et on la poursuit, hein, même si, effectivement, un certain nombre de coûts ont augmenté et nous obligent, je dirais, de monter un peu en gamme, hein, et de nous orienter, effectivement, vers des pays qui ont aussi des revenus, où il y a une population importante qui a des revenus suffisants pour comprendre ce type de démarche et accéder également, je dirais, à ce mobilier au sens large plus onéreux.
À quel rythme vous créez, vous imposez un rythme saisonnier, printemps, été, automne, hiver, ou c'est à votre guise ?
Alors, effectivement, alors, la particularité pour mettre en œuvre cette politique dont je viens de parler, c'est qu'on a nos bureaux d'études, véritablement. On a un bureau d'études meubles, un bureau d'études siège, on a un bureau d'études également pour tout ce qui est l'accessorisation, hein, c'est-à-dire les petits meubles, le luminaire, le tapis, etc., la décoration. Et tout ceci est créé. Il n'y a pas un produit qui sort sans un designer, sans le nom d'une personne. Et tous les noms sont, je dirais, imprimés dans les catalogues, etc. Ça, c'est un premier point. Donc, on doit travailler à peu près avec une centaine de designers. Il y a au moins une centaine de designers qui sont rémunérés par an. Bien sûr qu'il y a des produits lourds qui sont beaucoup plus importants, hein, qui sont tout ce qui sont les sofas, les canapés, tous les meubles meublants, les programmes, je dirais, de meubles, qui sont beaucoup d'articles, etc. Donc, tout ça est conçu avec des gens dont c'est le métier, avec qui on a des affinités. Et après, ça passe dans les bureaux d'études avant d'être industrialisé. Donc, il y a un process bien défini pour vérifier, valider et essayer aussi d'obtenir les meilleurs coûts, hein, parce qu'on a cette volonté un peu... J'ai eu la chance de connaître Pierre Paulin, avec qui on a travaillé, et il m'expliquait bien cette volonté de, alors que son nom était déjà confirmé, je dirais, la renommée était déjà là, mais il me disait, il était très ému lorsqu'il a visité nos usines en disant, c'est ce que je cherchais depuis très longtemps, vous avez un réseau de distribution, vous touchez quasiment le monde entier, et vous allez faire connaître, je dirais, véritablement à des populations importantes, mes produits, ce que j'ai voulu faire, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un plaisir d'en arriver là. Et ça, c'est le métier d'un entrepreneur, c'est d'arriver à donner satisfaction aux consommateurs, je dirais, par la qualité de la création, mais aussi par la qualité de la fabrication, et par la qualité de l'image qu'on transmet dans la communication. Et vous voyez, ça fait trois chapitres, ça fait trois métiers différents, et c'est, voilà tout ce qu'on fait quotidiennement.
Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu deux stratégies. Vous voulez asseoir un positionnement un peu haut de gamme, luxe, dont vous avez parlé, et en même temps, vous voulez toucher quand même beaucoup de monde, développer des gammes accessibles. Comment c'est compatible ?
C'est compatible, comment dire ? Déjà, c'est vrai que par la conception un peu avant-gardiste ou plus progressiste ou très novatrice, on touche qu'une partie du triangle. En fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème de qui apprécie quoi, quelle culture ont les gens. Et là, on est quand même dans un triangle qui est assez mince et étroit. Et ça sert à faire l'image. Et les étages inférieurs, qui ne sont pas inférieurs au niveau de la conception, mais en matière de prix, par exemple, sont quand même issus, je dirais, des catégories supérieures, des segments supérieurs, mais avec une volonté plus industrielle afin d'avoir, je dirais, de meilleurs prix. Donc en fait, dans nos collections, effectivement, si je fais simple, il y a un haut de gamme et il y a aussi quelque chose qui est plus milieu de gamme. Voilà. C'est une différenciation quand même par les prix.
Vous vendez aussi beaucoup à l'international, je crois que c'est plus de 60%, plus de 70% de votre activité.
Oui, mais c'est ça depuis maintenant, je ne sais pas, une vingtaine d'années à peu près. On dirait qu'il y a plus de 2 produits sur 3 qui, lorsqu'ils sortent de Briord France, où on est, les petits villages dans lesquels on est établi, depuis ces usines qui sont dans le département de l'Ain essentiellement, un tout petit peu dans l'Isère aussi, il y a plus de 2 produits sur 3 qui, chaque jour, est destiné à l'exportation.
Vous avez combien de magasins en France ?
En France, on a deux marques, donc c'est un peu compliqué la réponse, mais quoi, on a deux marques, Limrosay et Sina. Tout d'abord, on a environ 55 magasins intégrés qui appartiennent au groupe. On parle de groupe, non pas par modestie, mais parce qu'on est obligé de distinguer les deux marques. Et donc, en France, on a à peu près 120 magasins pour distribuer les deux marques, hein, tout réunis. Et puis, à l'étranger, si on compte l'ensemble du monde, on est à peu près dans 750 magasins. Il faut être honnête aussi, certains magasins ne sont que des corners et ne sont pas des magasins autonomes comme ils peuvent exister, je dirais, dans les grandes capitales.
Quel regard vous portez-vous sur le monde du design aujourd'hui et de la création avec toutes ces marques qui se lancent, du coup, qui est... votre marché est devenu très concurrentiel? Comment vous vous adaptez pour conserver votre place et maintenir les ventes, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, ça devait être plus facile?
On a ce grand savoir-faire d'avoir une organisation très aboutie, en fait, avec une importance primordiale à la conception, avec des bureaux d'études, comme je l'ai dit, indépendants, qui sont placés sous la direction générale et séparés directement, je dirais, au niveau du pouvoir et de l'administration, des directions techniques et de production. C'est-à-dire que véritablement, ce sont des espaces où tout designer peut passer 2 jours, 3 jours, peut véritablement, bien sûr, encadrer avec des gens, on appelle ça des prototypistes d'élite, hein, qui sont soit des tapissiers, soit des couturières, etc., soit des gens qui travaillent le métal. Tout ça est intégré chez nous. Donc, on peut véritablement construire dans ces bureaux d'études, une fois que la direction a donné son blanc-seing, ce qu'on veut. On sait tout faire. C'est pour ça qu'on a le département Limrosay Contrat qui se développe très très fort, parce qu'on a ces bureaux d'études. C'est-à-dire qu'on est capable de répondre très très rapidement à de nouvelles architectures, à de nouveaux matériaux, à des mélanges, à des associations que les autres ne peuvent pas faire. Donc on a cette force, je dirais, qui est la force de conception et de création, et qui, effectivement, nous apporte beaucoup de clients et de demandes à l'exportation. Alors qu'on en aurait peut-être moins besoin dans un pays comme la France, fonction de la réputation et de la notoriété de la marque. Bien évidemment, les collections, il y a cette partie haut de gamme créative, et puis il y a le reste où, effectivement, on s'adapte avec les directions marketing pour apporter toujours des produits signés, mais qui ont un coût, je dirais, plus abordable.
Combien de temps il faut pour créer une collection, par exemple?
Justement, on est réputé pour, je prends l'exemple, on sort de 2 salons importants, puisqu'il y avait le salon de Cologne, qui est un salon très très important pour l'exportation, pour nous, et puis Maison et Objets, qui est un salon qui rayonne essentiellement sur la France, même s'il y a des prospects étrangers. Mais donc, ces deux, on sort de ces salons et donc d'une nouvelle collection. Donc là, on a de nouveaux designers. Par exemple, cette année, on présentait Erkner, qu'on connaissait bien, que je connaissais bien, parce qu'il faut savoir qu'on est très demandé en matière de design et de création. Donc, on a la chance que l'offre soit nettement supérieure à la demande et qu'on doit faire le tri, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, par exemple, Erkner, on a sorti un nouveau sofa, une certaine qualité, je dirais, bien vue, parce que bon, elle a remporté un succès à peu près de partout. Mais il y avait également son tapis, quelques tables basses, un luminaire qui n'était pas encore là, mais qui va arriver l'an prochain. Mais donc, ce que je vais expliquer, c'est que c'est pratiquement un designer avec une petite collection qui arrive, et ça nous permet de mettre en magasin déjà les accessoires et l'environnement, et d'arriver avec de l'architecture intérieure, en fait, transmissible assez rapidement dans les magasins et ensemble. C'est-à-dire que on fait des pré-architectures intérieures pour nos magasins, en fait. Et ça, c'est intéressant. C'est l'avantage de tout trouver au même endroit. Et bien sûr, je dirais, ça a le même goût, ça a la même odeur, et c'est la même définition marketing par rapport à une communication. Donc, on est assez cohérent à ce niveau-là.
Vous parliez des designers, effectivement, vous avez collaboré, vous disiez, avec une centaine de designers, qu'ils soient débutants ou très connus. Comment vous les choisissez? Sur quels critères? Pourquoi tel designer pour tel produit? Vous imposez un produit ou comment vous travaillez avec eux?
Alors, première chose, c'est un peu comme en matière financière, vous avez des banquiers privilégiés parce que ce sont eux qui, à la limite, vous font le plus de prêts, etc. Donc, effectivement, il y a quelques personnalités, quelques individus plus ou moins connus qui ont été retenus par l'entreprise avec qui on travaille, je dirais, sur un moyen long terme. Puisque nos produits, d'ailleurs, durent assez longtemps. C'est un autre particularisme. Vous parlez du Togo, un produit qui a 45 ans. Parfois, je dis des bêtises, mais facilement 45 ans. Donc, comme vous le voyez, on peut travailler assez longtemps avec certains produits. C'est une particularité. Donc, les designers nous suivent, en fait. Et puis, on a, comme je vous l'ai dit, la chance d'être présent dans beaucoup de pays importants, en Europe, mais également en Asie, aux États-Unis. Et là, ça draine, en fait, nos collections et nos magasins drainent des demandes, en fait, et drainent vers nous, vers mon assistante, qui ne fait pratiquement que ça, un nombre de dossiers considérables. Après que l'on trie, qu'on choisit. Mais, comme j'ai un peu maintenant un peu de bouteille et d'âge, je connais déjà à l'avance un peu les cartes. Je veux dire, c'est un peu comme dans d'autres domaines, mais on a des affinités qui se font, électives ou pas, mais qui se font dans le temps. Je vous parlais d'Erkner, ben je le connaissais depuis 4 ans, hein, là où la presse ne parlait pas du tout de lui. Mais il faut qu'on ait la place, il faut qu'on ait les besoins, etc. Il faut que les besoins des collections puissent tomber face à la bonne typologie de designer. Puisqu'en fait, un designer n'est bon que s'il a lui aussi la volonté, la passion, l'envie de faire quelque chose, qu'on lui laisse une certaine liberté, mais qu'il tombe pas devant un devoir de vacances épouvantable pour gagner des sous. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc ça, c'est un peu mon rôle aussi, c'est de savoir véritablement ceux qui ont envie, et puis ceux qui sont bons aussi. Parce qu'on sait reconnaître sur les dessins, sur les crayonnés, malgré l'avance, je dirais le 3D, qui est souvent un piège, on sait reconnaître. On a pas mal de professeurs de design dans nos équipes. Hein. On travaille beaucoup avec des gens qui sortent de l'ENSI, de Saint-Étienne et de plein d'autres endroits, hein, des arts déco. Et moi-même, je suis à certains jurys. L'entreprise Roset a été membre fondateur de la création du VIA, qui existe, qui est un organisme, je dirais, de la profession, hein, de nos syndicats professionnels, et qui travaille justement dans la valorisation de l'innovation de l'ameublement. Et puis, par plaisir, la société SINA a créé un concours qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, 11 ou 12 ans. Et ce concours, chaque année, nous permet d'abord de donner des prix, de classer au moins 3 produits, un prix du public, je crois, et 2 prix par catégorie. Et ces prix, souvent, on les réédite. Et en même temps, on n'en réédite que 3 ou 4, mais en fait, derrière, on a un fichier de jeunes étudiants sortant des écoles, on a une base de données très très importante.
Oui, le jeune designer ne vous fait pas peur.
Ah, au contraire, non. Nos racines, elles sont des racines progressistes, de gens qui veulent changer un peu la façon de vivre, qui n'ont pas envie de s'ennuyer chez eux, qui sont intéressés par la culture, par l'architecture, et qui ont compris que la qualité nécessite un tout petit peu d'investissement et de moyens. Et cette clientèle-là, effectivement, elle apprécie les changements, les nouvelles directions, les nouveaux matériaux, etc. Donc, souvent, ce sont les jeunes designers ou architectes qui apportent ce paramètre de progressisme qui est quand même très nécessaire dans ce qu'on fait.
En parallèle, vous faites aussi beaucoup de rééditions. Pourquoi ? C'est plus facile ou c'est un succès assuré ?
C'est vrai que c'est une bonne question. On pourrait se dire, pourquoi, avec tous les nouveaux et toutes les demandes que vous avez, pourquoi vous rééditez des gens ? Alors, on a commencé à se rééditer nous-mêmes, parce que lorsqu'on a su faire, il y a 30 ans ou 40 ans, des produits qui étaient justes par rapport à une certaine période, et qu'en matière de marketing, on voit que quand même, une génération ne connaît pas exactement la précédente, et ça c'est vrai, et que la roue tournant, la demande, l'appétit, je ne vais pas employer le mot de mode, mais les tendances ou les influenceurs ou ce que vous voulez regardent les années 70, on se dit, là on n'était pas mauvais déjà dans les années 70. D'où certaines volontés de réédition qui viennent montrer que la marque a une histoire, a un passé, et on vient prouver même, je dirais, que dans ces années-là, on avait parmi les meilleurs produits et des tendances excellentes. Et comme on les a perdus dans le temps, ben c'est bien de pouvoir les rééditer. Donc là, Line Rosay vient de sortir la Smara, un produit fabuleux, hein, à l'époque où, en 68, on disait « vivons couchés hein, » plutôt que « assis ». Et puis après, il y a eu cette possibilité de la famille Paulin de nous demander de collaborer, de rééditer effectivement Pierre Paulin. Et ça, c'est vrai, comme c'est quand même un maître du design français, qui a toujours été un mobilier qui m'a séduit, hein, parfait en matière de proportion, d'une très grande qualité et simplicité, quoi, le beau non décoratif, hein, et que c'était des produits très justes et qui ne vieillissent pas, et on en fait la preuve, puisqu'en fait, ce sont des produits qu'on vend très très bien, qui font partie de notre collection, que nous allons prochainement regrouper. Donc, c'est la deuxième réédition qu'on fait, alors avec plusieurs articles, hein, donc ça donne l'impression qu'on en fait beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein. Il y en a très peu. Hein. Il y a un produit dans la collection Sina qu'on réédite cette année, hein, et qu'on a sorti en version outdoor et en version indoor. Et effectivement, ce sont des produits qui sont très appréciés, parce que, comme je le disais avant, il y a une demande de ce côté-là. C'est à nous aussi à repérer, donc avec nos cellules marketing.
Oui, comment vous faites ? J'allais vous demander, avec Sina particulièrement, vous êtes assez précurseur, des nicheurs de talents, de tendances. Comment vous faites pour avoir un temps d'avance, pour savoir ce qui va marcher, ce qui va être tendance ?
Ça, c'est la chance des réseaux, parce qu'on travaille un peu dans une forme de communautarisme. On travaille en réseau, c'est-à-dire qu'on a, comme on l'a vu tout à l'heure, 150 magasins avec des gens qualifiés à l'intérieur, qui sont beaucoup plus autre chose que des vendeurs, qui sont également des gens qui ont une formation, qui sont des architectes d'intérieur, qui savent ce que sont que les couleurs, puis ils savent un tout petit peu ce qu'est la sociologie, et ils savent écouter les gens aussi. Et ils voient très très bien qu'on perdait un peu une population assez jeune, parce que c'est pas que nos produits ne les intéressaient pas, mais on a vu qu'on était un peu trop cher pour ces tranches d'âge, en fait. C'était notre clientèle première, je parle il y a 60 ans. On est intéressé à leur donner satisfaction. Hein. Et c'est comme ça qu'on a pu se tourner soit sur des rééditions, ou soit vraiment faire appel à de jeunes designers pour sortir des choses un peu différentes, mais au bon prix.
Vous avez aussi, là, cette année, dans votre actualité, vous venez de signer un partenariat, je ne sais pas si c'est le bon mot, avec le Mobilier National, qui meuble donc les palais de la République. Comment vous avez travaillé ensemble ? Qu'est-ce que vous leur avez proposé comme type de mobilier ? On se dit que ça doit être très classique, et en fait, vous êtes très contemporain.
Ouais. Bah, faut dire que non, le Mobilier National, effectivement, Henri IV, les débuts, les châteaux, et maintenant les palais de la République, comme vous dites. Mais il faut savoir que dès les années 60, avec Paulin, et puis grâce à Malraux, le ministre de la Culture à l'époque, ils ont créé l'ARC. Hein. Et l'ARC, qui est une association de recherche en mobilier contemporain, hein, à l'intérieur un département interne, et c'est eux qui ont fait justement sous Pompidou avec Paulin et plein d'autres. Ils avaient cette cellule qui a travaillé avec les plus grands de l'époque, hein, Olivier Mourgue et plein d'autres. Disons que le constat du nouveau directeur, c'est de voir que cette cellule n'était pas assez agissante. J'ai eu la chance, en travaillant étroitement avec Philippe Nigrot, qui avait été retenu par le Mobilier National. J'ai été un peu associé au début à ses travaux, parce qu'en fait, je suis même ce qu'ils font pour d'autres, hein, pas directement pour nous. Donc là, c'était le cas, et le Mobilier National lui avait donné une sorte de carte blanche sur un projet, et j'ai suivi, c'était du meuble meublant, de très haute facture.
C'est quoi du meuble meublant, je me permets
meublant, c'est-à-dire c'est du bout de bois, c'est-à-dire qu'il y a du bois, quoi, voilà. C'était des meubles en bois, de très très haute facture, mais ce sont des meubles, parce que le problème, un siège ou un canapé, c'est aussi du meuble. Donc, à la limite, il faut distinguer un peu les départements et les usines. Donc là, c'était du meuble. Il a fait un très, très beau produit qui a représenté je ne sais pas combien d'années de travail, et ainsi de suite. Et avec lui, on s'est dit, mais pourquoi pas créer les assises qui correspondent à ça, même s'il y a un distinguo. Et on a présenté ce projet à Hervé Lemoine, qui est le nouveau directeur du Mobilier National, et qui a dit, mais ça tombe tout à fait dans ma politique. Je veux relancer l'ARC on a besoin. Et il a été lui aussi très moderne, puisqu'en fait, nous sommes une entreprise privée, eux, bon, je dirais entreprise d'État. On s'est associés pour faire cette collection d'Igro, là, et qui a été avec la collection Hémicycle, hein, qui va bientôt sortir, qui a été présentée, et qui a eu un très très grand succès, je dirais déjà par les commandes qui ont été passées par les deux salons de Cologne et de Maisons et Objets, et puis également dans la presse, et je dirais avec tout le travail du Mobilier National, qui est en charge aussi des ambassades, etc., d'un certain nombre de lieux de prestige et de qualité. Et donc, on est très fiers de pouvoir signer cette collection, en ce qui concerne les assises, les sièges, par Mobilier National, Philippe Nigro, Lynn Roset. Voilà. Ils seront signés des trois signatures, ce qui est quand même une première.
Et grande nouveauté aussi, j'ai vu que vous proposez un service de location de vos meubles.
Alors ça, oui, ça c'est marketing. Là, moi, je suis un peu moins compétent, mais j'ai quand même compris. Donc, je peux vous donner ça, c'est suivre un peu le marché de l'automobile. C'est dire aux gens, dès que vous pouvez mettre 10 000 ou 15 000 euros, nous, on peut vous proposer ce système, ça s'appelle la LOA, vous ne payez que des loyers, en fait. Et c'est vrai que ça soulage, en fait, je dirais, les trésoreries. C'est destiné aussi, c'est le même discours, envers les jeunes qu'on a un tout petit peu perdus, hein, nos trentenaires, je dirais même double salaire, hein, puisque quand on voit le prix de l'immobilier à 3 euros à Paris, hein, vous comprenez que... Bon, il ne reste plus grand-chose pour le meuble. Mais donc, c'est pour eux aussi que ces facilités financières, cet étalement, je dirais, surtout qu'à la fin, on peut reprendre, ils peuvent racheter, ils peuvent conserver, mais ils peuvent également, on peut reprendre et partir sur un autre contrat et changer sa décoration.
Vous parliez de la fabrication française, on n'a pas encore abordé ça. Où sont fabriqués tous vos meubles?
Ben voilà, ils sont fabriqués dans, je dirais, le triangle des Bermudes, ça commence avec des B. Donc, le plus petit village, il s'appelle Briord, hein, c'est là où le berceau de la société, hein, entre une rivière et les forêts de hêtres, la rivière pour la force, je dirais, motrice nécessaire, avec des roues à aubes. Hein, il y a de très belles photos, hein, donc pas triste d'ailleurs quand vous les voyez, assez nostalgique. Donc on a rayonné à partir de là, là et c'est devenu le siège social en fait quand même, ça reste, c'est devenu le siège social, donc avec beaucoup de mètres carrés, là on a des usines assez importantes, et puis qui sont distinguées par différents centres, je dirais, de manufactures différentes, c'est-à-dire
de production.
Les bois, on a beaucoup de couturières aussi dans le siège, et puis dans le meuble, on a plutôt que beaucoup plus d'hommes professionnels, hein, qui sont ou menuisiers à l'origine ou formés par nous, en fait.
En fait, c'est industrialisé. En même temps, il y a beaucoup de travail à la main.
Il y a les deux, oui, bien sûr, bien sûr. Mais on peut, quand je dis industrialisé, ça veut dire c'est trouver les process de fabrication qui ne nous font pas perdre du temps et qui nous permettent d'optimiser les temps de fabrication. Ce n'est pas forcément, je dirais... Il y a des choses qui nécessitent du travail à la main, ben on les fait à la main si on considère que c'est à la main qu'on doit le faire. Mais en revanche, elles sont organisées, ça se fait dans un ordre très précis, quoi. Là, on a aussi effectivement des responsables, des directeurs techniques et de production qui sont des ingénieurs qui sont passés, je dirais, souvent dans l'automobile d'ailleurs, et qui savent organiser le travail et faire en sorte qu'on ait les meilleurs coûts.
Vous avez combien de salariés ?
On essaye de rester sous la barre des 1000. On doit être actuellement 850 à 900.
Côté design éco-responsable, vous êtes aussi très engagé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Oui, d'ailleurs, il est prévu qu'on améliore de loin notre communication à la matière, parce qu'on fait beaucoup de choses, mais en fait, on ne le dit pas assez, je dirais, dans le cadre de nos réseaux de magasins et je dirais des architectes intérieurs qui travaillent avec le public. Par exemple, dans les usines meubles, ça fait depuis très longtemps, comme on exportait en Allemagne très tôt, qu'on travaille déjà plus, on a éliminé le formaldéhyde. L'usine récupère toutes les poussières et déchets et se chauffe ainsi, en réduisant plus de 60% la facture, je dirais, hydrocarbures. Hein, et plein d'autres choses que j'ignore encore. En ce qui concerne tous les composants, que ce soit pour les usines sièges ou meubles, on est très regardant dès la création des produits sur les différents composants, hein, et les différentes finitions, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on apporte. Par exemple, on colle à l'eau depuis très longtemps toutes nos structures en mousse. Elles sont collées à l'eau, hein, ce qui était un investissement important. Tous nos bois proviennent de forêts gérées, PEFC, etc. Ça, c'est nos fournisseurs qui sont souvent des gens, certains fournisseurs qui sont souvent des gens un peu en avance, créatifs, nous indiquent également des savoir-faire et des solutions intéressantes. Donc, on partage l'expérience en la matière. Voilà, les choses essentielles. Il faut donc qu'on communique un peu mieux là-dessus. Et puis, bien sûr, on est adhérent. Mon frère Pierre est même au conseil d'administration d'Écomobilier. C'est une taxe que paye le consommateur qui nous permet de récupérer et de reprendre et de recycler, je dirais, différents matériaux dans le cadre des canapés, par exemple. C'est un organisme qui appartient un peu, je dirais, à notre profession. Puis l'autre point qui est intéressant, c'est qu'en matière sociale, même du temps de mon père, déjà, il y avait des horaires variables. Il a donné une cinquième semaine nettement avant l'État, avant les autres, on va dire. Et puis, on a créé une crèche aussi, ce qui n'a pas été facile, puisqu'on a beaucoup de couturières dans les usines de Briord. Et on a créé une crèche, voilà, qui donne entièrement satisfaction, et pour nous, et puis pour les gens de notre municipe, hein, en fait. Voilà à peu près ce qu'on fait. Et puis, effectivement, on va communiquer un peu plus sur différentes autres choses que j'ai oubliées, parce que je ne suis pas le spécialiste de cette partie, mais ça va être fait dans les mois qui viennent.
Alors, on en parlait tout à l'heure, vous êtes une marque, un groupe qui est assez anti-conformisme. D'où ça vient? Est-ce que vous l'êtes aussi?
Je pense que, oui, le son créatif, la rupture... C'est quelque chose qui m'habite depuis assez jeune, en fait. C'est un regard qui est, pour moi, automatique, un peu. Mais je pense qu'il est nécessaire dans ses fonctions. C'est d'être un peu attiré par les gens qui vous expliquent les choses différemment et qui ont, je dirais, l'intelligence de le communiquer et de l'expliquer correctement. C'est vrai que ces fonctions de création... Ce ne sont pas des fonctions qui nécessitent l'embourgeoisement et la facilité, en fait. C'est des remises en cause permanentes et la volonté de les communiquer pour les faire aboutir et les faire passer. Donc, on n'en parle pas, mais j'essuie et on essuie, parce que c'est une équipe, parfois des refus, et qu'il y a pas mal de choses qui restent au placard. Peut-être qu'on retrouvera.
Est-ce qu'il y a parfois des produits sur lesquels vous avez beaucoup misé et qui ont été un échec?
Oui, il y en a. Oui. Quand on se trompe de cible de prix, par exemple, quand il n'y a pas d'adéquation entre la typologie, le prix, ça peut laisser des produits qui sont intéressants pour les musées, hein, souvent. On a notre propre musée, il faudra qu'un jour... on puisse investir dedans, mais on a de très belles choses qui ont été faites et qui se sont très peu vendues, mais qui ont toute leur valeur. C'est après la mise, je dirais, en conformité dans les réseaux qui n'a pas fonctionné, mais les produits en soi, ils restent très intéressants.
Je crois que votre fils et le fils de votre frère aussi sont impliqués dans l'affaire familiale, donc pour vous, c'est logique que ça se perpétue?
Logique, oui, dans une affaire familiale, dans la mesure où on fait en sorte que ça puisse se produire comme ça, oui. Là, c'est le cas, puisque, effectivement, j'ai mon fils, mon frère Pierre a le sien, donc je dirais, il ne nous reste plus qu'à passer la main et à nous retirer gentiment.
Est-ce que chez vous, c'est un showroom Sina et Ligno Rosé, ou pas forcément?
Alors là, je ne vous cache pas, il y a une vérité, c'est que, comme j'en parle toute la journée, j'ai toujours commandé, éviter d'avoir à réaliser moi-même, je dirais, quoi que ce soit en matière d'architecture intérieure ou de choix de produits. Je dirais, moi, j'ai mon petit musée dans le cadre de l'entreprise, hein, en fait, avec ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est mon musée. Le reste, en fait, d'ailleurs, il y a une diversité. Hein, les personnes qui sont en charge de ça, en ce qui concerne, bien sûr, ont du Rosé ou du Sina, mais elles ont aussi d'autres marques, hein, également, et d'autres choses qu'elles apprécient et qu'elles ont su apporter.
Quels sont les grands créateurs, les designers qui vous inspirent vraiment, qui vous plaisent?
C'est difficile, je pense que de toute façon, quand on a aimé les gens, on continue à les aimer dans le temps, en fait. Hein. Donc après, bon, ouais, y en a plein qui sont déjà morts, hein. Donc c'est pas pour ça qu'ils sont sortis de mon esprit. Donc c'est très très compliqué. Et c'est vrai que bon, y a toute la culture, je dirais, depuis le début, effectivement. Des choses qui sont très bien. On ne travaille pas, puisque c'est une autre firme qui travaille avec eux. Mais moi, j'apprécie beaucoup le personnage de Charlotte Perriand, qui est actuellement remis au goût du jour. Mais... Donc, il y a des gens comme ça qui sont des gens témoins de leur temps, hein, qui peuvent être très différents. Et puis, chez nous, il y a des gens qui ont marqué, en fait, leur passage dans la longueur. Puis après, il y a les affinités électives, hein, mais ça, je dirais qu'elles sont ultra professionnelles. Hein, c'est-à-dire que c'est certain qu'il y a des gens que j'apprécie plus, c'est pas forcément les meilleurs non plus. En fait. Tout dépend comment. Non, mais quel regard on porte? Est-ce qu'on porte un regard intellectuel, culturel et affectif sur certaines choses? Et puis, il y a ce qui a marché, ce qui a réussi, c'est vrai. Donc, si je raisonnais. En tant que marchand, je dirais que Michel Ducarrois, qui nous a permis de vendre bientôt 2 millions de produits, le chiffre il augmente toujours, bah, effectivement, ça serait de loin le premier, bien que je ne l'ai pas connu très longtemps. Hein, donc je l'ai connu peu de temps. Bien sûr que j'ai pas mal travaillé au début et il m'a appris beaucoup de choses. J'en garde un excellent souvenir, mais voilà.
Quelle est la pièce de la maison que vous préférez? Un endroit où vous sentez bien, un petit coin à vous?
D'abord, j'habite, je suis un peu un nomade, hein, donc j'habite à Paris, à Lyon, et aussi à côté des usines. Donc déjà, ça fait 3 endroits. Donc comme je suis toujours un peu en retard, j'essaye d'être efficace et pas trop en retard, c'est quand même les cuisines ouvertes, là où on peut, je dirais, boire, manger, écouter la radio ou la télévision, en faisant plusieurs choses à la fois. Mais quoi, tout compte fait, je ne suis pas souvent là non plus.
Alors, on va terminer avec les questions à Wattmill, qui sont des petites questions, vous allez voir, pas cher payé, comme on dit. Question à 6,20 €, le prix d'une carte Michelin. Donc, la plus grande de votre usine est à Briord, dont vous parliez tout à l'heure, dans l'Ain. Savez-vous comment on appelle les habitants?
J'espère qu'on ne les appelle pas les briordures. Mais... non, je ne connais même pas. Mais j'ai dû l'entendre, mais j'ai déjà oublié. Oui.
Les briolants.
Briolant, mais c'est pas très beau non plus.
Non. Question à 599 €, le prix d'un ordinateur en promo pour se connecter à Internet. Quand on fait une enquête sur vous, on tombe sur 4 profils de Michel Rosé. Donc il y a Michel Rosé qui est un écrivain, Michel Rosé un cardiologue et Michel Rosé un chef en cuisine. Est-ce qu'il y a un des profils que vous auriez bien aimé être?
Ah bon, c'est 3 homonymes, ouais. Avec la même orthographe.
Exactement. Oui, si, pareil.
Bah, un écrivain chef, j'aurais bien aimé, et les deux. L'écrivain chef.
Et question à 1982 €, le prix de départ de votre Togo. Le Togo, c'est donc un pays. Est-ce qu'il est entre le Ghana et le Bénin ou le Ghana et le Gabon?
Je dirais, avec un risque d'erreur important, Ghana-Bénin.
Exactement. En fait, il y a le Ghana, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon. Merci infiniment, Michel. Merci beaucoup. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.